avec un écrivain à la une du Figaro.
Mais bien plus qu'un écrivain, Michel Houellebecq pour le Figaro est le messager. C'est le titre de l'éditorial du journal, le messager, dont les ouvrages sont les symptômes des maux qui nous rongent. Il est Houellebecq celui qui dérange par sa sombre lucidité et désormais, je cite, le chantre d'une France qui ne veut pas mourir, écrivain visionnaire qui gagne ses talons de grand romancier du peuple. Et si le Figaro s'enthousiasme ainsi, c'est que Michel Houellebecq, une nouvelle fois, tomberait à pic dans l'actualité. Son roman Sérotonine, qui sort dans une semaine, Sérotonine, c'est le nom d'une hormone du bonheur. Son roman donc compte les errances d'un quadragénaire revenu du sexe, un mâle occidental homophobe à la libido en berne et sous antidépresseur résume Libération, un mâle occidental dont l'ami d'enfance est un aristocrate devenu paysan en Normandie et qui finit par mener une révolte d'agriculteurs affrontant armée des CRS sur un barrage autoroutier, le sang coulera. Et voilà bien, nous dit le Figaro, notre crise des gilets jaunes saisie par Houellebecq. Houellebecq qui annoncerait le pire, faut-il le redouter? Car Libération se souvient qu'en 2001, son plateforme, avec qui culminait dans un massacre de touristes par un colmando islamiste, était sortie juste avant les attentats contre les tours jumelles de New York. Et en 2015, Soumission, qui racontait la prise du pouvoir en France par les islamistes, était sortie le 7 janvier, le jour de la tuerie de Charlie Hebdo. Libération salue d'ailleurs Charlie Hebdo qui, d'humour, comme souvent, transfigure son deuil. Le prochain livre de Houellebecq sortira le 4 janvier. On s'abstiendra d'en dire du mal. La dernière fois, ça ne nous a pas franchement réussi. Comment ne pas aimer Charlie? Houellebecq, vous le verrez, attire les journaux, mais on ne sait pas si c'est le goût du sang ou bien l'habitude. On rit dans Houellebecq, m'assure la vie. Les dernières nouvelles d'Alsace rient aussi et fabriquent un jeu de mots qui rappelle la crudité de l'œuvre de l'homme, extension du domaine de la turlute. Pardon pour les enfants. Ouest-France retrouve Houellebecq talentueux et pessimiste. Le retrouver est suffisant. L'Obs, vous le verrez, moque Houellebecq, ce personnage supposé opt-pessimiste, mais qui dans la vraie vie vient de se marier joyeusement, redingote, cravate à fleurs et chapeau melon, et qui a célébré ses noces avec Carla Bruni Sarkozy en invité à Saint-Germain-des-Prés. Et le chroniqueur de nos défaites serait en réalité un roitelet orgueilleux, heureux de son védétariat, entouré de flagorneurs et de notables culturels mielleux. David Caviglioli de L'Obs a du talent. Quand il éreinte un homme, il a aussi ce jeune homme de la mémoire. Car enfin, le poète René Char, se souvient-il, ermite provençal, était abonné à l'Argus de la presse qui lui envoyait des articles attestant sa célébrité. Houellebecq est aussi, poursuit L'Obs, un homme qui a un positionnement politique. Il est passé de la gauche à la droite, assez dur, voire identitaire, héros maintenant de valeurs actuelles qui lui offrent ses unes. Et en 2017, Houellebecq, id extremis, avait été dissuadé d'appeler à voter Marine Le Pen. Ce serait donc là la cohérence du Figaro, reprendre Houellebecq à valeurs actuelles. Notons qu'il est dans le Figaro, superbe journal, un dissident. Il s'appelle Thierry Clermont, journaliste littéraire et écrivain qui visiblement a été enrôlé en ronchonnant dans le dossier hagiographique de ses petits camarades. Et alors, au coin d'un article sur les références littéraires de Houellebecq, il réussit à me glisser que Sérotonine est ennuyeux et mal charpenté. Ennuyeux et mal charpenté. Il faudrait donc les gilets jaunes pour que Houellebecq n'ennuie pas. On peut aussi, savez-vous, pour saisir notre monde, lire, c'est le Conseil de la Croix, Umberto Eco, dont on republie quelques conférences au bonheur de la complexité. Oui, ça ne vaut pas Houellebecq. Mais la complexité, ça parle aussi des gilets jaunes.
Et les gilets jaunes qui continuent de peupler nos journaux.
Et qui continuent d'un titre à l'autre d'inspirer tantôt l'espérance, tantôt la tristesse. Et je lis aussi bien ce matin, dans la Provence, une histoire moche du barrage de Fos, où le réveillon du 24 décembre a tourné à la scène de ménage aviné du Zola, on dit les forces de l'ordre. Oui, mais dans le Midi Libre, vous avez l'épopée de Ricou, qui a marché 800 km pour porter depuis Mende à l'Elysée les lettres lourdes de contestation et de colère de ses frères de combat. Il était bien au château le jour de Noël, enfin presque. Ces lettres, Ricou a dû les donner à un conseiller à 300 mètres de l'Elysée, sur le trottoir, dit-il, devant la statue de De Gaulle. Cela me conforte dans mon opinion. Le gouvernement nous méprise, dit Ricou. Les gilets jaunes, un homme a commencé à les filmer, Yann Arthus Bertrand, qui le dit à Ouest-France, dont il fait la une en écologiste inquiet. Ce film, ce sera, il est prévu en 2020, un film sur la France d'aujourd'hui. Mon regard sur ce pays que j'adore. J'ai parcouru le monde, dit Yann Arthus Bertrand, mais la France est incroyable, avec des lois sociales exemplaires, une culture formidable, et aussi des villages qui meurent, des industries délocalisées, des gens qui souffrent. Et Arthus Bertrand veut parler de cette souffrance. Lui qui est un fils maraîcher qui demande seulement une chose, nourrir sa famille, nourrir les gens et faire vivre sa famille. Il a raison. Et quel contraste et quelle diversité dans Ouest-France entre le cynisme de Houellebecq et Arthus Bertrand, l'ami du pape, toujours joyeux. Ainsi diffèrent nos héros français.
nos héros, un héros ce matin dans Sud-Ouest.
Qui, le temps venu, Sud-Ouest des bilans de l'année, me rappelle l'exploit de Alvin Gorham. C'est un basketteur du Stade Montois qui, en septembre dernier, s'en allant à l'entraînement des poussins de son club, a vu une voiture que léchait les flammes sur le boulevard Saint-Médard et il l'a sorti de sa voiture et il a sauvé les deux fillettes d'un an et demi et de cinq ans de la maman qui s'appelle Marilyn Monn. Belle histoire, évidemment. Mais ce qui me retient ce matin et me laisse un drôle de goût, c'est la suite que raconte Alvin. Car Marilyn a eu du mal à se faire rembourser par l'assurance, ce n'est pas encore fini, et je cite, « Elle a eu beaucoup de problèmes. Pendant un temps, il a même été question de complot pour l'assurance, car on a eu le malheur de venir tous les deux du 93. Pourtant, on leur explique qu'on ne s'était jamais rencontrés avant. Il ne se fâche même pas, Alvin, d'être soupçonné parce que venant de la banlieue parisienne, c'est le tarif, c'est ainsi. Il ne prononce pas le mot de racisme. Dans Le Monde, et j'en termine, un homme parle lui du racisme, il ne semble pourtant pas cet homme à plaindre. Il y a un certain racisme dans notre pays, que ce soit lui et moi, on est renvoyé à nos origines, une manière de dire qu'on n'est pas à notre place. Parole d'Alexandre Benalla, oui, l'homme de l'affaire, à propos d'un autre Alexandre Djouri, intermédiaire supposé sulfureux que la justice voudrait interroger. Mais pour Benalla, ce sont les origines maghrébines qu'il partage, lui et Djouri, qui expliqueraient leurs ennuis. Il polémique en ce moment avec des responsables de l'Élysée. Benalla, il échangerait toujours avec le président via sa messagerie Telegram. Mais Le Monde raconte, la vie d'après, l'histoire d'un jeune homme en étonnante ascension, introduit en Afrique dans les questions de sécurité, ayant rencontré le président tchadien, mais aussi sans doute le président congolais, et qui à Paris fréquenterait avec joie des gens importants dans des palaces, tel le communicant Ramzi Kiroun, conseiller spécial d'Arnaud Lagardère. Il vit à Londres désormais, Alexandre Benalla, et ressemble à sa manière à une bonne histoire.